Grâce à vos dons, ce podcast est en libre accès. Soutenez-vous. Soutenez-nous au poste.fr.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, on est un petit peu en retard, merci d'être là pour une nouvelle émission d'Horizon 21. Je vous rappelle, Horizon 21, une émission mensuelle qui est animée une fois sur deux par Afrique 21 et Orient 21, deux médias indépendants qui sont spécialisés sur le continent africain et sur le Moyen-Orient. Je suis Mickaël Poron, Afrique 21 du coup. N'hésitez pas à aller faire un tour sur nos médias respectifs. Nous fonctionnons sur le don des lecteurs. Donc si vous aimez ce qu'on écrit, ce qu'on fait, n'hésitez pas à faire un don comme au poste d'ailleurs. Merci au poste de nous accueillir une nouvelle fois pour cette émission. Merci David, bonjour à toute l'équipe, Rial, Théophile qui est derrière les manettes aujourd'hui. Et pour ce nouveau numéro d'Horizon 21, on va parler corruption en Afrique avec notre invité, l'un des lanceurs d'alerte les plus connus du continent. On va voir pourquoi il est si connu, qui s'appelle Jean-Jacques Lumumba. Bonjour Jean-Jacques, merci d'être avec nous.
Bonjour Mickaël.
Ça va ?
Ça va très bien.
Bon. Donc Jean-Jacques Lumumba, je vais vous présenter rapidement à nos auditeurs, auditrices. Donc vous êtes né en 86 à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Donc à l'époque c'était le Zaïre.
Oui.
Donc c'était sous l'ère de Mobutu Sese Seko.
Exactement.
C'est important de préciser pour tout le monde qui ne connaît pas le Congo. Et en plus, on va recroiser un peu tous ces personnages à un moment donné. Et donc, votre nom, pour ceux qui ne le connaissent pas, le nom de famille, en fait, est un nom de famille très connu au Congo et au-delà, dans le monde, en fait. Puisque vous êtes le petit-neveu ou arrière-petit-neveu ?
Petit-neveu de Patrice-Emery Lumumba.
Voilà, de Patrice-Emery Lumumba, qui est donc le père de l'indépendance de la RD Congo, qui a été donc assassiné en 1961. Donc 25 ans, pile en fait, j'ai remarqué ça avant votre naissance.
Oui exactement, je suis né exactement 25 ans après son assassinat.
Après son assassinat, qui est en fait, alors on va pas revenir, c'est pas l'objet de l'émission, on va pas revenir vraiment sur Patrice Lumumba, mais j'invite les internautes à aller sur Afrique 21, on a beaucoup écrit sur cette affaire, et notamment je vous conseille une grande interview qu'on avait fait de Stuart Redd, qui a fait un grand livre, The Lumumba Plot, si je ne me trompe pas, une interview avec Victoria Britten. Donc je vous invite à aller sur Afrique 21, où il explique à peu près tout le complot qu'il y a eu autour de Patrice Emery Lumumba, qui était le premier ministre de la RD Congo.
Oui, le premier ministre qui a connu une fin tragique avec ses deux amis, ses deux compatriotes, Mpolo et Okito, qui étaient des autorités politiques de l'époque aussi qui ont été assassinées en même temps que...
Avec lui, ouais. Avec ses deux camarades, ouais. Et donc un complot qui mouille les Belges, qui étaient donc les anciens colons de la République démocratique du Congo, et Mobutu Sese Seko, qui était qui était dans le complot, et avec le feu vert, en gros, de la CIA.
Exactement.
Pour résumer, si ça vous intéresse cette histoire, n'hésitez pas à aller sur Afrique 21 pour en lire plus. Alors, justement, avant d'aller un peu plus loin, j'ai lu justement par rapport à ce nom de famille que finalement ça a poursuivi longtemps votre famille, que vous avez vécu des... Alors je l'ai lu, je sais pas, vous allez confirmer ou pas, vous avez été pas mal persécuté en fait, juste parce que vous portiez le nom Lumumba.
C'était compliqué à l'époque de Mobutu. Ma famille a été persécutée parce que Mobutu se sentant gêné n'a pas mené la vie facile au Lumumba, ce qui fait que son nom a été suffisamment... piétiné jusque en 97 quand arrive Laurent Désiré Kabila qui est un des Lumumbistes et qui faisait même partie des mouvements Lumumbistes du Katanga à l'époque qui remet encore ce nom en scène mais pendant les 32 ans de règne de Mobutu c'est pas un nom qui était le bienvenu au Zaïre.
Et vous dans votre enfance vous avez des souvenirs de ces persécutions?
Oui, mon grand-père le jeune frère de Patrice a été persécuté, il s'est même vu arracher la plupart de ses biens au Zaïre de Mobutu, il s'est vu arrêter. Ça a été des moments difficiles pour ma famille. Ses enfants ont vécu en exil. Et c'est vrai qu'ils ont pu revenir à la fin, mais ça n'a pas été des moments faciles à l'époque Mobutu pour la famille Lumumba. Ça a été des moments très difficiles parce qu'à la fois, ils se sentaient coupables d'avoir participé à l'assassinat de son ami, de son mentor, et c'était assez compliqué.
Oui, ils étaient proches, en fait.
Oui, voilà. Ils étaient très proches. Mmh. C'était le secrétaire particulier de Lumumba, c'est Lumumba qui l'a réhabilité dans l'armée, c'est Lumumba qui a fait de lui secrétaire dans le gouvernement. C'est Lumumba qui refait de lui le chef d'état-major. Mm-hmm. Et après, il est le poignard dans
le... C'est une vraie trahison, ouais. Alors, vous grandissez et faites une partie de vos études en RD Congo, République démocratique du Congo. Avant de faire un MBA en France, donc MBA, c'est, pour expliquer, c'est un master en fait,
oui,
c'est ça?
C'est un master en risque management et assurance des entreprises.
Et alors, je ne sais pas en quelle année vous terminez vos études, mais en gros, vous aviez quel âge du coup quand vous avez terminé?
Ben, j'ai terminé mes études à l'âge de 21-22 ans,
ouais.
Et j'ai commencé à travailler directement.
Ok. Et en fait, vous revenez au Congo pour entrer dans une des plus, sinon la plus grosse banque?
Ouais, j'ai travaillé dans 4 banques au total en République démocratique du Congo. La première s'appelait Procrédit. C'est devenu Equity BCDC aujourd'hui. C'est la plus grande banque, hein, si je dois le dire, en termes de taille et de portefeuille. Et Equity est devenu Procrédit à la suite de beaucoup de fusions. Je passe chez Fibank, qui est une banque aujourd'hui qui est liquidée. Je travaille un peu chez Access Bank et aussi chez BG Fibank.
Et donc de 2012 à 2016, vous êtes chez BGFI Bank Congo, puisque c'est une banque gabonaise en fait. Hein.
C'est une banque gabonaise à la base.
À la base, donc c'est la filiale au Congo, à Kinshasa.
C'est la filiale congolaise, exactement.
Jusqu'à en devenir d'ailleurs l'un des directeurs.
Ouais, le chef de département des engagements, donc le responsable des risques de crédit.
Et vous avez tout juste 30 ans, vous êtes très jeune en fait.
Ouais, j'ai juste 30 ans.
Voilà. Et là, 2016, c'est là où tout se complique pour vous, puisque quand vous, en fait, vous alertez à un moment donné votre hiérarchie.
Absolument.
Et aussi un cabinet d'audit sur de probables détournements de fonds.
Ouais.
Au bénéfice de l'entourage du président de l'époque. Alors le président de l'époque, il faut le rappeler, c'est Joseph Kabila.
C'est Joseph Kabila à l'époque.
Qui est le fils de Laurent Désiré Kabila.
Absolument.
Voilà. Là, vous sentez que ça ne se passe pas très bien pour vous. Enfin, qu'il commence à y avoir beaucoup de pression.
Voilà, c'est là où tout dégénère en réalité. Vous verrez qu'il y a plusieurs des acteurs dans ces instants-là. Qui sont aujourd'hui des acteurs clés dans la rébellion RDC. Il s'agit de Corneille Nangaa, qui est le président de la CENI.
Alors la CENI, c'est la...
C'est la Commission électorale nationale indépendante.
Indépendante.
Donc, c'est l'institution qui est chargée d'organiser les élections. Et il y a le frère de Joseph Kabila, qui aujourd'hui est entre les filets de la justice américaine, avec les biens. Et il y a des proches de Joseph Kabila, dont Joseph Kabila lui-même. De façon assez directe et indirecte dans beaucoup d'entreprises. Et donc c'est ce qui fait que ce que j'épingle touche directement à la famille,
au pouvoir et au
clan présidentiel.
Au clan présidentiel.
Et tout ça, c'est parce que je refuse de participer en réalité ou de les aider à faire ce qu'ils font, parce que à cette époque-là. J'estime que ce sont des faits répréhensibles qui pourront coûter très 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 cher à la banque. Et je crois que même celui qui était avant moi en tant que responsable réprochait de cela à ma hiérarchie. Et par un tour de passe-passe, il s'est fait remercier. Mais moi, quand j'arrive, je constate qu'il y a énormément de choses qui ne marchent pas et que ça part du détournement des fonds publics, des fonds de la Banque centrale du Congo, il faut le souligner. Au financement du terrorisme. Et c'est des faits clairs établis.
Quand vous dites au financement du terrorisme, vous pensez
à... Il y a beaucoup d'entreprises du Hezbollah qui font des affaires dans la banque.
Mmh.
Et ça, avec la bénédiction du directeur général de la banque, qui est le frère de l'ancien président Joseph Kabila.
Alors juste pour nos internautes, quand vous parliez de l'Est du Congo, donc aujourd'hui l'Est du Congo est secoué par une rébellion, enfin ça fait 30 ans qu'il y a des rébellions dans l'Est du Congo, mais actuellement celle dont on parle le plus, c'est la rébellion
M23, exactement.
Et qui a été rejointe par un mouvement politique, l'Alliance Fleuve Congo, qui est dirigée par Corneille Nangaa, l'une des personnes que vous avez citées tout à l'heure.
Et parmi les dossiers que j'épingle et qui me créent des problèmes, c'est le dossier de la Commission électorale nationale indépendante, qui est dirigé à l'époque par Corneille
Nangaa. Et Joseph Kabila, donc l'ancien président, a rejoint ce mouvement dans l'Est du Congo il y a quelques temps.
Oui. Il est clairement établi qu'il fait partie des financiers et des patrons du M23.
Du M23, Alliance Fleuve Congo. Voilà, AFC M23. Joseph Kabila, on y reviendra tout à l'heure de toute façon, mais c'était bien pour poser le contexte. Voilà. Mais à l'époque, donc, il est président
de la République.
Donc là, vous avez des pressions et même vous êtes menacé. avec une arme par l'un de vos responsables. Ce qui est quand même pas banal dans une banque.
Exactement.
Je tiens à le souligner. Et vous décidez de vous exiler en France. En fait, vous mettez en arrêt maladie, si je me souviens bien, dans ce que j'ai lu, et vous partez passer votre arrêt maladie en France.
En France, exactement.
On va dire. Et là où vous faites venir votre famille, en fait, pour, voilà, pour mettre votre famille en sécurité. Et
absolument, c'est bien ça. Un mois après, ils me rejoignent à Paris. Mm.
Et là, vous faites quelque chose que peu font, souvent par peur, et c'est pour ça que les lanceurs d'alerte, c'est important, c'est que vous décidez de dévoiler l'ampleur, en fait, de ces détournements de fonds. Donc des milliers de documents que vous allez dévoiler, on appellera ça les Lumumba Papers, de votre nom de famille. Et ces documents vont donner en fait une série d'enquêtes journalistiques, d'abord, qui vont s'appeler Congo Hold Up.
Oui, Congo Hold Up arrive au fait 3 ou 4 ans après. Parce que sur base de ce que j'ai dit, ça oriente sur beaucoup de pistes. Il y a une enquête de Bloomberg qui apparaît en décembre 2016. Et cette enquête épingle déjà plus de 70 entreprises clairement liées à la famille Kabila. Parce que dans ces 70 entreprises, les enquêteurs que je salue aujourd'hui, hein, Michael Kavanagh et son ami, arrivent à prouver par des documents établis par le journal officiel en RDC l'appartenance et les liens de ces entreprises à la famille Joseph Kabila. À ses enfants, à sa femme, à ses proches, à ses frères, à ses sœurs. Et très clairement, ces 70 entreprises sont liées à lui. Et ça, c'est aussi grâce à mes révélations, à mes papiers, à ce que je révèle à la presse. Ça leur permet, ça aiguise leur...
ça les oriente
leur,
en fait.
Ça oriente leur enquête pour pouvoir arriver à ces conclusions. Et très clairement, à ce moment-là, on comprend pourquoi est-ce que Joseph Kabila refuse de quitter le pouvoir, pourquoi est-ce qu'il refuse d'organiser les élections. Et comment est-ce que son emprise, il a une emprise financière sur la RDC par ses entreprises. Mmh. Et c'est à cette époque-là que moi-même, je commence à me rendre compte de la grandeur du danger que je courais, même si j'avais reçu des menaces, mais je ne m'imaginais pas que les choses étaient aussi graves et aussi profondes.
Aussi profondes. Parce qu'en fait, il y a quand même donc c'est Congo Hold Up, c'est d'autres enquêtes qui sortent ensuite dans les médias. Je sais qu'il y a eu un dossier qui existe que les gens peuvent aller voir sur Mediapart notamment, mais il n'y avait pas que Mediapart, il y a eu RFI, il y a eu beaucoup de journaux qui ont travaillé dessus. Mais l'ampleur, oui, est extraordinaire. Est-ce qu'on a un chiffre global de ce que représentent les détournements à l'époque?
Les détournements, on arrive à ça, c'est de façon minimaliste, à peu près 150 millions d'euros, plus ou moins.
150 millions d'euros.
Ça, c'est vraiment de façon minimaliste. Mais vous allez voir qu'après, il y a des enquêtes sur la Gécamines. On prouve clairement qu'un demi-milliard d'euros a été clairement détourné et qu'il y a pas mal d'autres fonds détournés, blanchis. Et très facilement, que sur cette banque-là, on dépasse le demi-milliard d'euros.
Le demi-milliard d'euros, c'est faramineux, en fait.
Exactement.
Juste, on refait un petit pas. Donc, effectivement, 2016-2017, Joseph Kabila fait traîner en longueur. Il veut pas organiser les élections. À l'époque, je me souviens, on parlait de glissement du calendrier, je crois, électoral.
Alors qu'on n'était pas dans la situation actuelle en RDC, où on a une guerre. Hein, une bonne partie de la RDC n'est plus sous le contrôle du gouvernement central. À cette époque-là, il n'y avait pas de guerre, mais il ne voulait pas organiser les élections. Et il y avait des velléités pour qu'il reste au pouvoir, mais heureusement qu'en ce moment-là, avec la ténacité du peuple congolais, les choses ne se sont pas passées comme il le voulait.
Ces enquêtes journalistiques faites, finalement, la justice va se saisir à un moment donné de l'affaire. On en est à combien d'enquêtes ouvertes? J'ai compté 3 en Europe.
Oui, il y en a plus ou moins 3 en Europe. Il y a la justice congolaise à l'époque qui s'auto-saisit de l'affaire Congo Hold Up en 2021. Mais avec très peu d'évolution. Il y a les mouvements associatifs et citoyens que nous sommes, en tant qu'acteurs de la société civile, qui commencions à l'époque à mener des démarches pour exiger des sanctions contre Joseph Kabila. Mais malheureusement, on n'obtient pas gain de cause parce que le dossier se trouve buté à un niveau où, que ce soit au département d'État où on a été ou un peu partout à l'Union européenne, ils se disent que c'est un ancien chef d'État qui a des considérations politiques qui devait être pris en compte. et que on devait privilégier la passation pacifique du pouvoir, l'emmener à quitter le pouvoir et après envisager des sanctions dans une certaine mesure. Mais à l'époque, nous n'arrivons pas à trouver gain de cause parce que on estime qu'il y a eu beaucoup d'abus et qu'il y a eu surtout spoliation et détournement des biens et des deniers publics appartenant au peuple congolais. Et qu'à un moment donné, on établit même des liens sur les tueries qui se passent à Kinshasa, parce que il y a, selon plusieurs enquêtes de Human Rights Watch, des anciens combattants du M23 qui sont utilisés à Kinshasa dans tous les massacres qui sont commis dans la ville de Kinshasa. Et donc déjà à l'époque, on a réussi à établir par nos enquêtes des liens entre Joseph Kabila et des mouvements terroristes comme le M23 et d'autres mouvements terroristes à l'est de la RDC.
Oui, pour rappeler donc aux internautes, le mouvement M23 n'est pas nouveau. Hein. Il s'était lancé dans les années 2000, je ne sais plus.
2002. En fait, c'est l'AFDL, le RCD, voilà. Le CNDP recyclé.
C'est plusieurs groupes qui se sont recyclés.
Plusieurs groupes proches du Rwanda, voilà. Qui donnent naissance, je crois, en 2012.
C'est ça, 2012.
Du mouvement du 23 mars. Voilà.
Qui ensuite rentre en négociation avec Kinshasa, donc se met en sommeil. Ouais. Et se réactive il y a quelques années. Donc,
grâce à l'administration Obama, je crois, en 2013 ou 2012, la guerre est, on met fin à la, les Américains réussissent à obtenir l'arrêt de la guerre. Parce qu'il faut le dire, oui, de fond, on parle du fait que le mouvement a été vaincu, mais c'est aussi grâce à l'appui diplomatique des États-Unis. Quand en 2012-2013, le Congo arrive à obtenir le retrait total du M23 et son cantonnement pour certains en Ouganda et au Rwanda.
Et donc il se réactive, ce mouvement, il y a quelques années, donc 2023,
2021.
Et puis là, on a connu, il y a depuis un an et demi, on connaît une offensive importante, puisque aujourd'hui, le M23 occupe une partie.
Goma et Bukavu.
Goma et Bukavu, dans l'est du Congo.
Avec énormément de tueries et de massacres du peuple congolais.
Et donc derrière tout ça, on voit Corneille Nanga, on voit Joseph Kabila.
On voit Joseph Kabila, voilà. On voit le Rwanda.
Ouais.
Et donc, les mêmes, à cause de qui, en 2016, j'ai quitté le pays, aujourd'hui, ce sont les mêmes qui sont à la manœuvre pour mener une rébellion contre les intérêts de la République démocratique du Congo.
Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que Joseph Kabila n'a pas été inquiété par la justice, en fait. Il était en Tanzanie, il est revenu à Goma, dans l'est du Congo.
Il est condamné à mort.
Alors, il est condamné à mort par Kinshasa.
Par Kinshasa, voilà. Parce que Kinshasa, déjà, a réussi à avoir énormément d'éléments liant Joseph Kabila à la rébellion du M23. Et sur base de ces faits, Kinshasa a ouvert un procès, le condamnant à mort pour haute trahison.
Mais pas pour les faits de corruption, c'est
pas,
ça que je veux dire.
Pas pour les faits de corruption,
pour les faits de corruption, aujourd'hui, il n'a toujours pas été condamné.
Exactement.
Ensuite, alors on va revenir un petit à petit sur les choses, mais quand même derrière ça, vous lancez ensuite votre propre collectif qui s'appelle Restitution pour l'Afrique.
Exactement.
Le RAF, le RAF.
Le RAF, exactement.
Si on peut dire. Quelle est l'idée derrière en fait ce collectif ?
Le collectif Restitution pour l'Afrique, c'est pas le collectif de Jean-Jacques Lumumba, c'est le collectif de plusieurs Africains et de plusieurs ONG africaines. C'est quoi l'idée derrière ? C'est qu'on se dit qu'il y a eu énormément de spoliation sur le continent africain. Ces spoliations ont été faites par des agents coloniaux, par des personnalités, par des personnes. Et ces biens qui sont arrivés et qui ont atterri dans d'autres continents méritent d'être restitués à l'Afrique. Et c'est la raison pour laquelle, par rapport au combat que nous menons tous, il y a un aspect financier et économique, mais il y a aussi un aspect culturel. Mais nous avons lancé le collectif et le premier fait d'armes, ça a été la plainte déposée contre le clan Bolloré. Parce qu'on estime que c'est un clan qui a fait énormément de mal à l'Afrique. Et
alors ça va me faire sauter si je parle de Bolloré tout de suite, mais on en reparlera effectivement.
Voilà, ouais, donc ouais. C'est ces deux aspects-là, économiques, financiers et culturels, qui ont mené à la création de notre collectif Restitution pour l'Afrique, parce qu'on estime qu'il faut qu'il y ait de la réparation pour les biens qui ont été spoliés, et qui ont été, pour lesquels l'Afrique a été dépouillée. Et de ce fait-là, par rapport à toutes les évolutions juridiques qu'il y a en France, cela nous permet aujourd'hui de mener à bien ce combat, pas que Jean-Jacques Lumumba, mais avec d'autres ONG. C'est la raison pour laquelle on parle de collectif, parce que ça n'appartient pas à Jean-Jacques Lumumba, mais la personne, la modeste personne que je représente aujourd'hui, porte aujourd'hui la voix du collectif Restitution pour l'Afrique. Peut-être que demain, ce sera une autre personne qui sera amenée à la porter, mais j'ai été la première personne désignée à porter la voix du collectif pour pouvoir mener tous ces combats.
Alors, si on rentre un peu dans le cœur du sujet, qui est le titre un peu de notre émission, à savoir la corruption en Afrique, un peu largement. Alors, oui, il y a un chat, Jean-Jacques Lumumba. Donc, on a des questions d'internautes. D'ailleurs, il y en a une peut-être que je peux vous poser tout de suite, c'est quels sont les intérêts de la famille Kabila avec la France et ou la Belgique ? J'ai pas la réponse, je sais pas si vous avez une réponse. Est-ce qu'il y a des liens en fait qui existent entre Joseph Kabila et l'ancien colonisateur?
Joseph Kabila était très clairement porté au pouvoir par des personnalités belges. Je peux en citer une, Louis Michel. A été l'une des personnes, commissaire européen à l'époque, et ministre belge, a été l'une des personnes à porter au pouvoir Joseph Kabila, à l'emmener partout, à le présenter à Jacques Chirac, qui le reconnaît lui-même. Et ce sont ces deux pays-là qui portent Joseph Kabila et qui le soutiennent, à la mort ou à la suite de l'assassinat de son père. Et donc,
c'est un lien déjà.
C'est un lien non négligeable.
Non négligeable, effectivement. Je voudrais donner un chiffre que j'ai retrouvé, qui est un chiffre qui vient de l'Office de lutte contre la drogue et le crime des Nations Unies, qui dit que sous Mobutu Sese Seko, donc en RD Congo, président du Zaïre de 65 à 97, il aurait puisé dans le trésor public de quelque 5 milliards de dollars, ce qui est, on a du mal à s'imaginer en fait, les sommes. Et donc ils font une comparaison, ils disent que c'était le montant qu'atteignait alors la dette extérieure du pays.
Exactement.
Ma question, c'est justement par rapport, on va continuer un peu sur la RD Congo, on élargira un petit peu après. Est-ce que la RD Congo est un pays en Afrique particulièrement touché par les faits de corruption? Quand on voit ça, on se dit qu'il y a un côté culturel. Disons que Mobutu Sese Seko, puis on peut dire les Kabila, mais en tout cas Joseph Kabila, on a l'impression qu'il y a une continuité en fait, dans ces faits de corruption.
Ce n'est pas particulièrement la République démocratique du Congo. Vous savez, l'Afrique en général est touchée par les faits de corruption à cause peut-être de notre fragilité.
Je voudrais préciser, ailleurs dans le monde aussi, il y a de la corruption.
À cause de notre fragilité ou de la fragilité institutionnelle des pays africains. Mais c'est un fait qui touche tous les pays africains. Et malheureusement, les pays post-coloniaux ont été conçus du fait d'avoir des régimes forts à la suite des indépendances. C'était pour que les anciens colons continuent à contrôler ces pays. Et malheureusement, ces hommes forts n'ont pas établi des systèmes forts. Ils se sont suffisamment enrichis. C'est le cas de Mobutu, c'est le cas de Joseph Kabila. Et malheureusement, cela n'a pas permis au Congo de décoller. Et donc, ces faits de corruption ont beaucoup, beaucoup freiné le développement. Et la corruption a été un frein pour le développement partout ailleurs en Afrique. Et donc, la République démocratique du Congo, l'ex-Zaïre, n'a pas échappé à cette règle.
Mais est-ce que vous direz qu'aujourd'hui, la situation s'est améliorée de ce point de vue-là avec le nouveau pouvoir, Félix
Malheureusement,
Tshisekedi, qui est au pouvoir depuis 2018.
Félix Tshisekedi a trouvé un pays en lambeaux. Je ne suis pas là pour prendre son parti. Il a trouvé un pays en lambeaux. Et malheureusement, en 2021, la guerre a recommencé. Et aujourd'hui, il dirige un pays en guerre. Oui, il y a des choses qu'on peut reprocher, mais la situation est très difficile parce que le Congo vit depuis plus de 30 ans dans une situation de crise humanitaire et dans une instabilité chronique. Et avec 5 ou 6 ans de guerre sous le règne de Tshisekedi, je crois que c'est quand même assez difficile pour lui de pouvoir s'en sortir.
Cela dit, nous on l'a écrit, c'est pour ça que je le dis, il y a des soupçons aujourd'hui qui pèsent sur sa famille puisqu'il y a eu une plainte des syndicats et des ONG de la région minière du Katanga. Qui est dans le sud du pays, c'est une région donc dans le sud du pays de RD Congo, qui sont venus déposer une plainte à Bruxelles pour des frais présumés justement de détournement et de blanchiment de fonds. captés par des hauts responsables congolais. Et on retrouve parmi ces hauts responsables congolais des noms de la famille Tshisekedi. Je précise que pour l'instant, il y a une enquête, donc on ne sait pas exactement quel est le fin fond de l'affaire. Mais ça voudrait dire qu'éventuellement, il y a eu aussi une perpétuation encore de faits de corruption, même si ce n'est pas directement la famille Tshisekedi, mais en tout cas des hauts responsables au Congo.
Et ça, par contre, j'aimerais préciser une chose. Il n'y a pas suffisamment encore d'éléments. L'enquête est en cours. Mais par rapport à ça, il ne faudrait vraiment pas basculer dans une sorte de régionalisme. Parce que vous voyez un tout petit peu l'ONG qui porte plainte. C'est le Katanga, l'ancien fief de Joseph Kabila. Et donc, il faut le prendre avec énormément de pincettes. Et jusqu'à ce que la justice puisse dire ce qu'elle dit. Mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de faits probants qui sont mis à la place, sur la place publique.
Disons que, effectivement, il ne faut pas tomber dans une sorte de... Et puis, il faut prendre ça avec des pincettes. Il y a une enquête qui est en cours, donc présumé innocent, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que c'est... Les affaires de corruption, en fait, sont toujours là. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui suit l'histoire du Congo. On a l'impression que, voilà. Maintenant, encore une fois, il y aura une enquête et on n'ira pas plus loin. Justement, vous parliez tout à l'heure des États-Unis. Et très récemment, on va rester un peu sur le Congo. Le 30 avril 2026, le département américain du Trésor a imposé des sanctions à Joseph Kabila. Et vous, vous avez accueilli, vous êtes exprimé à ce moment-là, et vous avez accueilli cette nouvelle plutôt de manière très positive. Vous pouvez nous expliquer pourquoi?
Exactement.
J'imagine pourquoi, mais...
J'ai été ravi par cette décision. Et par là, il faudrait souligner pourquoi c'est arrivé. Quand vous lisez les sanctions eux-mêmes, quand vous lisez la motivation des sanctions, ils partent de 2016, de la volonté de la non-organisation des élections, de tout ce qui s'est passé en termes de violation des articles de la Constitution et des faits de corruption. Vous voyez que l'OFAC cite des faits de corruption qui ont été rapportés par
le FAC, c'est l'organisme
du Trésor américain chargé des sanctions. Et il cite des faits de corruption rapportés par plusieurs lanceurs d'alerte. Et l'une des motivations claires, ça reste l'implication de Joseph Kabila dans le financement du mouvement terroriste AFC M23. Et donc là, il faut reconnaître une chose, c'est que nous, en tant que mouvement de la société civile et acteurs de la société civile qui avions milité pour ces sanctions, nous nous sommes arrêtés quelque part. Donc c'est aussi la diplomatie de président Tshisekedi et de l'implication des Américains qui arrivent à faire qu'on aille à avoir ces sanctions-là. Et donc parce que sans cela, ces sanctions ne seraient pas arrivées. Je crois que la donne participation et financement au groupe terroriste AFC M23 est un des éléments qui permettent d'arriver à ces sanctions. Parce que pour nous, c'est positif. Parce qu'on a réussi à prouver pendant plusieurs années que Joseph Kabila s'est servi des intérêts du Congo à détourner de l'argent public de la République démocratique du Congo pour financer ses propres entreprises. Et donc aujourd'hui, on est dans le regret de se rendre compte que cet argent qui était pillé du Congo sert aujourd'hui à tuer les Congolais.
Et à déstabiliser le pays.
Et donc pour nous, nous l'accueillons avec beaucoup, beaucoup de satisfaction. Parce que ça permet au moins, si pas de stopper directement, mais au moins de mettre un terme à ces financements, pour la plupart qui peuvent passer en dollars américains, pour pouvoir tuer nos compatriotes. Et c'est assez regrettable de voir qu'un ancien chef d'État, avec son réseau et son empire financier, s'en servir pour déstabiliser la RDC avec l'aide du Rwanda et financer un mouvement qui tue et qui pille les Congolais.
Est-ce que, en tant que porte-parole justement du RAF, donc du collectif de restitution, est-ce que vous attendez, grâce à cette décision, peut-être de retrouver une partie des sommes détournées et peut-être une restitution justement?
Bien sûr, que si, hein, parce que nous sommes un collectif qui nous battons pour la restitution. Et là, je ne vais pas livrer le secret de ce que nous faisons, mais nous nous intéressons aussi à tous les fonds qui sont sortis en dehors de la République démocratique du Congo et qui doivent être restitués. Et cela, par exemple, je vous dirais, par rapport à nos dénonciations de 2016, un des faits qui a été réalisé, c'est qu'en 2021 ou 2022, il y a l'inspection générale des finances qui a enquêté sur l'entreprise Egal et qui a
du Congo
et qui a réussi à prouver ce que nous disions depuis longtemps, que l'argent de la Banque centrale du Congo avait été détourné via la BGFI par cette entreprise égale. Et aujourd'hui, grâce à l'enquête de l'inspection générale des finances et à son ancien inspecteur général Jules Alinguete, qui est aujourd'hui retraité, on réussit à imposer à la banque et à cette entreprise de restituer de l'argent aux caisses du Trésor public, donc de la Banque centrale du Congo. Donc ça, c'est déjà un des faits positifs de notre combat. Et on espère que d'autres montants qui ont été détournés, qui sont partis soit dans des paradis fiscaux ou ailleurs, pourront être restitués au peuple congolais.
Et on est sur quel montant déjà là?
Là, on était sur plus de 40 millions d'euros.
Ouais, c'est déjà une grosse somme en fait. On se rend pas compte. Enfin, si.
Exactement.
Ça fait beaucoup. On parle de millions, on parle de milliards. Je vais encore redonner un chiffre qui va nous permettre d'élargir un peu la focale et de sortir un petit peu de la RD Congo. Donc toujours, c'est la même source. Hein, c'est toujours les Nations Unies. La corruption et le transfert de fonds illicites contribuent à la fuite des capitaux en Afrique où plus de 400 milliards de dollars ont été détournés et mis à l'abri à l'étranger. C'est juste énorme, en fait.
C'est énorme et c'est hallucinant.
Et c'est quand même hallucinant. Donc c'est de l'argent qui ne sert pas, en fait, les Africains pour le développement ou ce genre de choses. Peut-être même un chiffre sous-estimé, hein, il faut être honnête. Comment concrètement on peut lutter efficacement contre la corruption de manière générale en fait en Afrique? Alors, être un lanceur d'alerte, il faut avoir du courage, mais est-ce que ça passe par là aussi?
En partie, ça passe par là. Il faut accepter de dénoncer la corruption, mais on ne peut pas être lanceur d'alerte. Je prends mon cas à vie. Hein. Je l'ai fait parce que je travaillais dans une institution et ma vie était en danger. Ça a été parce qu'il faut déjà situer le contexte, mais ça passe pas que par là, ça passe surtout par le renforcement des instruments juridiques, parce qu'il faut, il est très important de pouvoir renforcer l'arsenal juridique des pays africains et faire en sorte que le pouvoir judiciaire soit suffisamment doté de moyens, de capacités, de personnes avec beaucoup de ressources pour pouvoir traquer la corruption, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur, parce que la corruption est un fait transnational. L'argent qui peut être détourné en Gambie, en Guinée, sera peut-être utilisé au Kenya, aux Émirats Arabes Unis, en Chine ou partout ailleurs ou dans des paradis fiscaux. Donc il faut faire en sorte que le système judiciaire et les instruments juridiques du pays permettent d'aller traquer ces fonds un peu partout. Et aussi, il faut avoir de la sanction positive et négative. Les rémunérations peuvent permettre de sérieusement lutter contre la corruption.
Quand vous dites les rémunérations, c'est-à-dire de mieux rémunérer...
Le traitement du personnel un peu partout, parce qu'il est aujourd'hui prouvé qu'un personnel bien traité ne sera pas tenté... quelqu'un qui s'est noué les deux bouts du mois ne sera forcément pas tenté à aller mettre la main dans la caisse de l'entreprise ou de l'État pour pouvoir s'en mettre plein les poches. Et donc tout ça peut aider à ce que la corruption soit drastiquement... baisser. Pour ceux qui travaillent bien, il faudrait les rémunérer. Et pour ceux qui travaillent mal, il faut les traquer. Et traquer surtout la grande corruption. Pour pouvoir baisser le taux de corruption, il faut traquer la grande corruption au plus grande échelle. Donc il faut montrer, donner l'exemple dans les États africains que la corruption n'est pas un fait tolérable, parce que malheureusement, ça freine le développement. La corruption, on le voit peut-être pas comme ça, mais ça tue plus que les guerres, parce que c'est moins de routes. C'est moins d'hôpitaux, c'est moins de pouvoir d'achat, c'est moins d'avenir. C'est l'une des raisons principales qui font que aujourd'hui les gens sont prêts à mourir en Méditerranée parce qu'ils veulent rejoindre l'Eldorado qu'ils appellent l'Europe ou l'Amérique, parce qu'il y a de la misère dans les pays africains, parce que le système a été détricoté et on en reviendra. C'est l'une des raisons pour laquelle le RAF défend aujourd'hui ce principe des biens mal acquis inversés. On se dit, on ne peut pas que traquer les corrompus, il faut traquer le corrupteur, celui qui vient profiter de notre faiblesse ou de la faiblesse de nos systèmes dans les pays africains pour pouvoir corrompre et se faire des bénéfices. Et ça se fait au détriment des peuples africains.
Alors ben justement, vous faites une transition parfaite pour la partie que je voulais aborder avec vous. Juste une question en passant, parce que on a parlé vite des lanceurs d'alerte, mais juste une question. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les lanceurs d'alerte ont besoin aussi de plus de protection?
Les lanceurs d'alerte ont besoin de plus de protection. Le Sénégal a fait a fait une avancée, une loi. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, je tiens à féliciter cela aussi. La RDC est en train de faire des avancées avec une loi de protection des lanceurs d'alerte qui est en train de bien avancer. Et là, on a quand même... il faut saluer la volonté politique de l'actuel ministre de la Justice et, qui a rencontré tout dernièrement les directeurs de la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique. Donc, quelques pays sont en train de faire des avancées. Le Sénégal a pris le courage avec les dirigeants actuels. La RDC aussi est en train de prendre le courage. Et ça, c'est des faits qu'il faut saluer parce que quand on protège les dénonciateurs, c'est aussi une façon de contribuer à lutter contre la corruption et à protéger ceux qui se battent jour et nuit pour dénoncer ces faits et avoir beaucoup plus de ressources dans les caisses de l'État, ce qui pourra permettre de développer les États africains.
Vous-même, à l'époque, vous aviez trouvé une protection, vous aviez trouvé des gens qui vous ont soutenu, aidé
difficile. Je tiens à remercier la plateforme de protection des lanceurs d'alerte et à remercier particulièrement le maître William Bourdon et le maître Henri Tuliez et le feu maître Georges-Henri Bautier qui n'est plus de ce monde aujourd'hui qui nous a quittés. C'est des personnes qui, même avant l'existence de PLAF, se sont suffisamment investies pour pouvoir m'aider, me protéger, pour que j'aie suffisamment de sécurité juridique. Hein, et ça a été l'un des faits marquants qui m'ont permis aujourd'hui à parler, à porter haut mon combat et les idées que je porte contre la mauvaise gouvernance et la corruption. Et donc, je ne cesserai de les remercier.
Donc, je rappelle le PLAF, donc la plateforme
de protection des lanceurs d'alerte en Afrique.
Des lanceurs d'alerte en Afrique. Alors justement, on parlait de corrompus, mais vous abordiez la question des corrupteurs également. Je fais un petit tour sur le chat. Est-ce qu'on a des... demander ensemble qu'est-ce que nous devons faire pour rétablir l'équipe française. Nous le sommes tout autant, ok, d'accord. Au Mali, ici, il s'agit de RD Congo. Je pense que parce qu'il y avait une question sur Wagner qui n'avait rien à voir avec l'émission de ce soir. Alors, on parlait de corrupteurs et vous avez raison, il n'y a pas de corrompus sans corrupteurs. Et souvent, enfin, en tout cas, sur le continent africain, on a quand même beaucoup de corrupteurs qui ne sont pas africains aussi, oui. Qui viennent de l'extérieur, et vous avez lancé un nom, et c'est important de le rappeler qu'on a un milliardaire français, hein, du nom de Vincent Bolloré, qui va comparaître devant le tribunal correctionnel, hein, pour corruption d'agents étrangers. En fait, la justice soupçonne, hein, son groupe, le groupe Bolloré à l'époque, d'avoir conseillé à moindre coût, je vais essayer d'être précis, hein, les campagnes de Fornia Singbé, qui est donc le président du Togo, et d'Alpha Condé, qui était à l'époque le président de la Guinée, et donc qui les a conseillés au moment des campagnes électorales, notamment. Ils ont remporté les présidences chacun en 2010, en échange de la gestion de leurs ports principaux. Il existe, hein, sur Internet, et puis il y a eu beaucoup de papiers écrits. Il existe même plein de photos, plein de vidéos où on voit Vincent Bolloré avec Alpha Condé et Fornia Singbé. Vous êtes derrière aussi ces procédures. Alors racontez-nous un petit peu comment vous êtes arrivé à aller vers Vincent Bolloré,
qui n'est pas
un petit morceau.
Je pense que c'est le travail de plusieurs ONG. On travaillait déjà de façon... différentes, dans plusieurs structures différentes, mais on avait le même objectif, c'est celui d'arriver à la restitution des fonds. Mais la CGIP qui est arrivée en 2021, où Vincent et le clan Bolloré ont reconnu cette corruption...
Oui, je rappelle qu'ils ont reconnu, en fait, lors d'une médiation.
Exactement.
Ils pensaient justement, en reconnaissant et en proposant
de payer une amende
qui
voilà.
passerait entre les mailles du filet.
Et pour nous, ça a été l'élément détonateur. Et la loi 2021 en France, qui s'occupe de la restitution des fonds, nous a permis de pouvoir porter cette affaire pour plusieurs pays, au-delà de Togo et de la Guinée, donc le Cameroun, le Ghana, la Côte d'Ivoire, à les inclure aussi dans ces faits. Et ça nous a permis d'étayer suffisamment de preuves pour pouvoir montrer que c'était une méthode d'un clan avec des faits de corruption et d'indices de faits de corruption avérés, pour pouvoir porter cette affaire au niveau de la juridiction ou des juridictions françaises, plus précisément au niveau du parquet national financier, parce que on estime que c'est les mêmes faits dans plusieurs pays élection contre gestion des ports et derrière spoliation, et qui est arrivé à une vente de près de 5,7 milliards d'euros qui ont atterri sur les banques françaises. Et donc on estime que ces faits et ces fonds qui sont issus avec plusieurs indices de corruption avérée doivent être portés devant la justice, et que c'est à la justice de qualifier les faits, et nous espérons qu'il y aura une condamnation pour pouvoir derrière aboutir à de la réparation sur les peuples de ces pays-là, dont les biens ont été spoliés, dont la corruption a permis à faciliter beaucoup de méfaits, avec moins de routes, moins d'hôpitaux, moins de pouvoir d'achat. Et c'est ça le combat qu'on mène, et ça c'est un des pans de la lutte du collectif Restitution pour l'Afrique.
Et il faut rappeler quand même que ces faits de corruption que vous avez très bien détaillés de Vincent Bolloré lui a permis, vous l'avez dit, d'acquérir une fortune considérable, puisqu'après il a revendu ses affaires en Afrique, et cette fortune lui sert aujourd'hui à être omniprésent, notamment dans les médias.
Absolument.
Dans les médias français, on en parle beaucoup en France, hein, aujourd'hui, du poids de Vincent Bolloré dans les médias français, et notamment les médias radicaux d'extrême droite, etc. Donc en fait, nous, alors je dis aux internautes, ils peuvent aller aussi sur Afrique 21 lire une série qu'on avait fait sur l'origine de la fortune de Vincent Bolloré en Afrique. Vous pouvez aller relire ça. Et donc cette fortune aujourd'hui qui lui sert à avoir un combat idéologique aussi en France et politique à travers ces médias. Donc c'est pas rien en fait ces histoires de corruption.
Exactement. Donc l'Afrique est dépouillée pour pouvoir financer des politiques.
De l'influence
d'extrême droite,
et...
ouais. Alors que d'une façon assez claire, il est l'un des instigateurs de cette montée d'immigration qui vient critiquer sur le continent européen ou en France, parce que quand on enlève l'espoir aux Africains, il ne leur reste qu'à prendre la Méditerranée pour rejoindre l'Europe, et ça, même en étant moi-même issu de l'immigration, je peux pas encourager qu'il y ait une montée de l'immigration en France, mais néanmoins ceux qui travaillent, ceux qui dépouillent les Africains pour que ces Africains soient désespérés et que demain ils soient fustigés en France, c'est des faits à condamner. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est des faits. Nous voulons que ces faits soient qualifiés par la justice et que des condamnations soient données pour qu'il y ait de la réparation. Parce que les Africains ont besoin de cette réparation, ceux dont les biens sont spoliés, parce qu'il y a eu un corrupteur avec des méthodes bien identifiées. Ce corrupteur-là mérite, grâce à la justice française, d'être condamné, et que derrière, il y ait de la réparation pour les peuples africains.
Alors justement, on en vient à cette partie qui est intéressante, c'est restituer. Il y a déjà donc vous l'avez dit, il y a une loi en France, il y a des affaires qui ont été portées, je pense notamment au fils du président de Guinée équatoriale par exemple, où c'est bien, donc c'est Théodorin Obiang pour nos internautes, dont les biens ont été saisis en France, enfin certains biens, notamment des voitures de luxe, etc. Et donc il était question qu'il y ait 6 millions, notamment environ 6 millions je crois, d'euros qui soient restitués à la Guinée équatoriale, mais il y a quand même parfois un peu de réticence, notamment de se dire, mais si on restitue l'argent à un pays qui fonctionne encore aujourd'hui sur un mode de corruption, ce qui est le cas, en l'occurrence, je parlais de la Guinée équatoriale, c'est toujours le même président et le fils est même numéro 2 aujourd'hui à la tête du pays. Beaucoup d'associations se disent, c'est peut-être pas la bonne méthode, en tout cas, de redonner l'argent comme ça. Donc, comment on pourrait faire pour que cet argent profite aussi au plus grand nombre en fait en Afrique? Comment on peut contrôler ça en fait?
Ben, c'est la raison pour laquelle la loi de 2021 qui va être suffisamment mise à l'épreuve, là je parle pas en tant que juriste, qui va être suffisamment mise à l'épreuve avec le procès qui est en cours et l'affaire qui est en cours auprès du PNF, essaye d'encadrer les méthodes de restitution en passant probablement par les aides au développement grâce au ministère des Affaires étrangères. Et donc, je crois que c'est l'une des méthodes qui peuvent servir à encadrer à travers des ONG indépendantes, à travers des structures indépendantes qui peuvent passer par le ministère des Affaires étrangères en France pour permettre à ce que la restitution puisse être encadrée, pour faire en sorte que l'argent restitué n'aille pas servir aux mêmes personnes qui ont travaillé dans un des systèmes ou dans un système qui a appauvri le peuple. Donc, je crois que, par exemple, si on finance une route d'un coin à un autre sur le continent africain dans un pays, par une aide au développement qui vient de la France grâce aux fonds restitués. Ça, ça peut permettre d'encadrer suffisamment ces fonds, la construction d'hôpitaux, le financement des projets bien spécifiques à caractère social peuvent être des moyens pour pouvoir encadrer ces mécanismes de restitution. Ça reste très, très important à souligner parce que c'est l'un des enjeux majeurs, parce qu'il ne faudrait pas que ceux qui ont participé à mettre en place ces systèmes puissent être eux-mêmes les bénéficiaires. C'est comme si les fonds issus de détournement iront financer d'autres détournements. Ça, c'est une vraie question, mais je crois que la loi a suffisamment réfléchi dessus et pourra, au moment des restitutions...
C'est-à-dire qu'elle n'est pas encore... on l'a pas encore testée.
La loi a été promulguée, elle existe. Oui. Maintenant, c'est le procès pour pouvoir être testé et qu'on soit sûr que tout se passera correctement. Nous, ce que nous visons en tant que collectif, en tant que structure associative, c'est d'encadrer aussi l'exécution de cette loi, c'est de veiller surtout à ce que ces moments, ces instants de restitution soient une réussite pour les peuples africains.
Je vais citer justement Sarah Brimboeuf, qui spécialise des biens mal acquis au sein de Transparis International, une organisation que vous connaissez très bien évidemment.
Je connais Sarah aussi.
Donc et Sarah, voilà, qui disait justement à propos de la Guinée équatoriale, voilà l'interrogation qu'elle pose. Elle dit, dans un pays comme la Guinée équatoriale, où il y a véritablement une capture de l'État, un régime qui est en place depuis plus de 40 ans, ce qui est le cas en 1979, avec une corruption qui est endémique, il est certain que si cet argent était restitué simplement simplement par un virement du trésor français au trésor équato-guinéen, on ne verrait pas beaucoup de projets d'intérêt général financés par cet argent restitué. Donc c'est tout ce qu'il faudrait éviter en fait.
Absolument, c'est des réflexions qui ont tout leur sens. Et donc il faut vraiment veiller à ça, veiller à ce que l'argent restitué servent directement à des intérêts des peuples africains et que non, que ça aille servir à des projets que l'on ne saura pas maîtriser.
Plus largement, du coup, vous êtes derrière, donc on parlait de Vincent Bolloré, est-ce qu'il y a d'autres pays sur lesquels, sans nous révéler de secrets, est-ce que vous travaillez sur d'autres affaires aussi
comme je l'ai dit, l'association travaille sur les aspects de restitution culturelle et donc nous veillons, nous avons beaucoup de projets sur lesquels nous sommes déjà en train de travailler et pour lesquels, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on mettra ça.
Juste, qu'est-ce que vous entendez par restitution culturelle, pour qu'on comprenne bien?
Pour la restitution culturelle, vous savez par exemple que dans plusieurs pays africains, lors de la colonisation, il y a des produits et des objets culturels qui ont été dépouillés et ramenés du continent africain vers les musées européens. Et aujourd'hui, pour la plupart, ces pays ne bénéficient pas des fruits de ces objets culturels. Et donc c'est toute une histoire de ces pays-là qui ont été dépouillés. Et donc nous pensons et nous estimons qu'il est tout à fait logique qu'aujourd'hui, plusieurs pays européens, la France, la Belgique et des autres pays, réfléchissent sur déjà comment restituer ces objets d'art aux peuples africains. Et à réfléchir sur tous les produits financiers que ces objets culturels ont pu engendrer en étant sur le sol français ou belge ou européen. Mais néanmoins, ce qui doit être mis en place de commun accord, c'est le transport de ces objets vers des musées sur le continent africain et la sécurité et la conservation de ces objets culturels. Ça aussi, il faudrait y réfléchir, il faudrait y veiller. Et nous porterons aussi la voix de toutes ces affaires-là parce qu'il s'agit d'une grande manne financière qui a échappé au continent africain pendant des années. Et ça peut être évalué à plusieurs milliards d'euros. Et ces objets d'art et cet aspect culturel méritent d'être mis en avant dans le combat de la restitution et de la réparation que nous menons.
On va rester un petit peu sur cette histoire de restitution d'objets pillés, volés, pendant notamment la colonisation, parce qu'il y a de l'actualité, en fait. Une loi a récemment été votée en France.
Absolument.
Pour, on va dire, fluidifier les contacts et la restitution des œuvres, des artefacts africains. Les chiffres, j'ai écrit un éditorial il n'y a pas longtemps sur cette loi. Les chiffres sont faramineux. Je crois qu'il y a 150 000 ou 200 000 objets aujourd'hui qui dorment, dont la plupart sont d'ailleurs au Quai Branly à Paris, qui dorment dans les sous-sols. Et j'entendais Emmanuel Macron hier qui s'exprimait depuis Nairobi, au Kenya, où il est allé au sommet Africa Forward, qui est en fait un sommet Afrique-France, et qui se félicitait de ça, d'avoir déjà rendu quelques œuvres dans quelques pays. Il parlait du Bénin, bien sûr, et d'autres. Moi, j'ai lu cette loi et j'étais un petit peu dubitatif. Notamment par les conditions, les conditionnalités. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un petit peu, j'ai comparé ça à un voleur d'œuvres d'art, c'est-à-dire que si un voleur d'œuvres d'art vole une œuvre d'art, et au moment où on le prend et qu'on veut restituer l'œuvre d'art, c'est comme si le voleur donnait ses conditions
Absolument.
Avant de rendre l'œuvre. Et parmi les conditions, vous l'avez citées, il y a cette condition de musée, de sécurité de l'œuvre. Moi, je me suis interrogé, est-ce que c'est vraiment au voleur de mettre ses conditions pour renvoyer des œuvres qui ne lui appartiennent pas?
Ben moi, je pense qu'à un moment donné, notre collectif a été aussi créé pour ça. Ces musées, cette sécurité, cette conservation, doivent être de la responsabilité des pays qui ont spolié, qui ont détourné ces biens-là. Ce n'est pas aux Africains, il ne faut pas demander aux Africains de construire ces musées-là. Dans le cadre de la réparation, nous estimons qu'il est tout à fait logique que la France, que la Belgique, que les pays qui ont eu à prendre et à subtiliser ces biens, de pouvoir financer la construction de ces musées, de financer la conservation de ces biens et de commun accord de voir comment réfléchir sur la sécurité. Parce que c'est eux qui sont venus prendre nos objets, les objets d'art dans les pays africains. Et donc, la loi ne peut pas dire que vous devez construire des musées, vous devez nous rassurer de la sécurité pour qu'on vous les remette. Je crois que c'est assez osé de réfléchir ainsi. La loi doit évoluer et notre collectif se battra pour que cette loi puisse être accessible et équitable pour les peuples africains parce qu'ils ont été victimes de ce qui s'est passé. Ils ont perdu de l'argent, hein. C'est un manque à gagner de plusieurs années. Et si nous devons évaluer ce manque à gagner, est-ce que les pays européens ont gagné dessus? Ça peut s'évaluer à plusieurs milliards d'euros. Et donc, il ne faut pas venir imposer aux peuples africains le point de vue de la loi française. Mais c'est une négociation dans laquelle il faut rentrer pour qu'à terme, ces objets soient retournent dans les pays dont ils sont venus.
La chercheuse militante aussi, Françoise Vergès, a beaucoup travaillé sur ces questions de musées. Une fois de plus, je fais la pub pour Afrique 21. On a une belle interview de Françoise Vergès sur un de ses bouquins qui parle de décoloniser les musées. Elle parle donc de cette histoire. Elle s'est exprimée après la loi en France. Elle aussi était assez dubitative là-dessus. Déjà, elle disait que les Africains n'étaient pas assez investis. En fait, on ne les faisait pas assez participer en fait, au recensement des œuvres, à tout le travail finalement de recensement des œuvres. Il n'existe pas de catalogue, en fait, sur lesquels les pays africains pourraient au moins voir ce qui existe. Aujourd'hui, on n'a pas de catalogue, on ne sait pas exactement ce qui existe. Puis l'autre chose, c'est que vous parliez des musées, mais en fait, il y a des œuvres simplement qui n'étaient pas faites pour être dans des musées. C'était des œuvres qui étaient dans les villages, qui servaient à des cérémonies,
Absolument.
qui étaient prévues pour ne pas durer dans le temps. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, plutôt que d'imposer un musée à l'occidental, est-ce qu'il n'y a pas aussi une réflexion plus profonde à avoir sur la...
Il faut avoir une réflexion beaucoup plus poussée. Ça doit permettre de reconstituer notre histoire sur le continent africain. Parce qu'il faut se dire que c'est toute une histoire de l'Afrique qui a été spoliée. C'est toute une culture, c'est toutes des civilisations qui ont été décapitées. Et donc en ce moment, il y a une réflexion à faire. Comment est-ce que certains de ces objets, ou même des centres, du style musée, culturel, pourront être construits dans des villages, dans des coins un peu plus éloignés, comment les sécuriser? Et moi, je réfléchis en allant un peu plus loin. Hein. Pourquoi, déjà, à ce stade, ne pas impliquer certains Africains dans les ressources que tous ces budgets, ces objets génèrent ici? Parce que le temps de les rapatrier sur le continent africain, ces objets...
C'est l'une des critiques, c'est très long.
...continuent à faire gagner de l'argent dans les pays où ils se retrouvent encore aujourd'hui. Donc il est tout à fait logique que les pays africains puissent avoir leurs droits dans les recettes qui se font ici parce que des gens viennent de partout dans le monde pour pouvoir les voir et les visiter. Ça fait rentrer de l'argent, c'est une manne financière pour l'Europe et il est de l'intérêt, il serait tout à fait juste que les pays africains aient leur part dans la gestion de ces musées pour pouvoir déjà avoir quelques ressources financières et derrière continuer à les réflexions pour que cela profite réellement au pays d'où ils sont originaires.
Et d'ailleurs, à propos de financiers, si on parle d'argent, hein, beaucoup d'œuvres africaines qui ont été pillées n'étaient pas destinées à être financiarisées, entre guillemets, et certaines se sont retrouvées sur un marché qui a été créé, un marché de l'art, et certaines œuvres atteignent des sommes faramineuses.
Absolument.
Que la plupart des pays ne pourraient même pas acquérir pour les ramener. Comment on peut aussi casser un peu ce schéma parce qu'on parlait de valeur, si ça a une valeur sur un marché, on parlait de sécurité, ça pourrait attirer aussi les convoitises si on ramenait ces œuvres. Comment gérer tout ça? Il faut avoir une réflexion globale.
Il faut avoir une réflexion globale, profonde, mais une réflexion qui doit se faire rapidement. Parce qu'il s'agit de la restitution, il s'agit des biens qui ont une valeur. Si on ne peut pas les sécuriser sur le continent africain, mais les pays dont ils sont, d'où ils sont originaires doivent aussi avoir gain de cause dans cela.
C'est
de l'argent. Ouais. Il faut qu'il y ait certaines rétrocessions financières. Vous savez, les pays africains ont besoin de tout aujourd'hui.
Comme une espèce de droit d'auteur, c'est-à-dire en fait.
Voilà, ils doivent avoir des droits et ces droits-là peuvent servir à financer, pourquoi pas, les domaines de la santé, les domaines de la justice, les domaines de l'éducation, parce que ces œuvres-là viennent de quelque part. Et ces pays-là doivent avoir leurs droits dans l'utilisation que ces objets ont aujourd'hui. Oui, ils n'étaient pas appelés à être aussi financiarisés, mais aujourd'hui, c'est des œuvres qui ont une valeur financière. Et donc, cette valeur financière et les gains que ces œuvres peuvent avoir doivent bénéficier très très clairement aux peuples africains et aux pays africains.
Faire ça vite, c'est bien tout le problème. Hein. Et d'ailleurs, c'est ce qui est reproché par Emmanuel Macron, s'est vanté d'avoir fait cette loi, etc. C'est bien d'avoir fait une loi déjà, mais effectivement, on lui reproche aussi que ce soit très long. Il a annoncé ça il y a 10 ans, et en fait, au bout de 10 ans, il y a très peu d'œuvres qui ont été retournées.
Il faut un pas, il faut faire le pas. Le pas a été fait, mais je crois que ça doit aller un peu plus vite. Impliquer les États africains, parce qu'il s'agit de leurs œuvres, il s'agit de leur propriété, il s'agit de leur histoire. Donc on ne peut pas les laisser loin de ça, loin de cette réflexion, parce qu'il faut une réflexion globale. Les pays africains doivent être suffisamment impliqués et arriver à je dirais pas un juste milieu, mais à une décision beaucoup plus juste pour pouvoir faire en sorte que ces biens bénéficient et que cela se retrouve et retourne en Afrique.
Il y a Valeur anarchiste qui dit, ben voilà, c'est ça, il faudrait des droits d'exploitation des ressources.
Bien sûr.
En fait, c'est ça.
Bien sûr, c'est tout à fait clair et c'est juste et logique.
Et ça pourrait se mettre en place assez vite,
ça,
finalement,
ça peut se mettre
avant
en place
même
rapidement,
de recenser les œuvres, de faire tout ce
absolument,
travail.
Absolument, ça peut se mettre. On sait qu'il y a autant d'objets, on sait qu'il y a autant qui viennent de tel coin de l'Afrique et de tel pays. Ces pays-là, d'où ils sont originaires, doivent être impliqués et être financièrement impliqués et recevoir des droits pour ces œuvres-là qui ont passé autant de temps ici.
Alors il y a aussi la réticence hein, des musées français qui résistent un peu en disant on va nous enlever toutes nos œuvres, on n'aura plus rien. Donc c'est aussi un travail culturel dans l'autre sens à faire, c'est-à-dire décoloniser le musée comme disait Françoise Vergès. C'est aussi les ceux qui travaillent sur ces œuvres leur expliquer que
ils doivent apprendre à se réinventer aussi.
Voilà.
Ils se sont enrichis sur le dos des œuvres qui sont venues de l'Afrique, mais à un moment donné. Ils doivent se réinventer et trouver quelque chose d'autre pour leur rentabilité. Oui, peut-être qu'ils vont faire des copies, mais ça doit être aussi, ça doit aussi bénéficier aux œuvres originales et à ces pays-là. Et donc, tout ça doit être réfléchi.
Et encore une fois, réfléchi, mais avec les Africains.
Il faut réfléchir avec les Africains parce que ça leur appartient. Et donc, c'est tout à fait logique. Et c'est là le travail de notre association. Nous, nous impliquons par rapport à ça pour faire en sorte que la réflexion aille vite, mais aille bien. Et surtout, que ce soit des réflexions justes qui bénéficieront aux peuples africains.
Moi, j'ai trouvé qu'il y avait dans cette loi, finalement, et à travers l'échange qu'on a, qu'il y a une certaine condescendance à dire... Oui, mais les Africains sont pas capables, en fait.
Et là, c'est assez condescendant.
Ouais.
Et c'est le combat que l'on doit mener. Ça appartient à des personnes. On peut pas dire à un père ou à une mère d'un enfant que vous n'êtes pas capable d'élever votre enfant, alors que ce père ou cette mère veut élever son enfant selon ses standards, selon sa culture. Et donc, si on peut l'aider, c'est de l'aider dans la mesure du possible pour l'aider à donner à son enfant l'éducation qui est de sa responsabilité, à l'encadrer et non à se dire on vous arrache votre enfant parce qu'on estime que votre éducation, votre culture n'est pas similaire à la nôtre. Ça, c'est assez condescendant et c'est très osé. Et je crois que c'est la même transposition qu'on peut faire sur le domaine culturel. Ces biens ont été spoliés, ils ont été détournés, ils sont venus de quelque part. Ces pays qui ont le droit sur ces biens doivent avoir aussi le droit à la parole et à la rentabilité financière que ces produits-là donnent sur le sol français ou européen.
Je rappelle donc la France hein, est dans cette démarche, l'Allemagne également est dans cette démarche, l'Angleterre je crois est dans cette démarche, et dans mes souvenirs l'Allemagne d'ailleurs est allée un petit peu plus vite, est venue derrière en fait la France, mais finalement est allée un peu plus vite dans la restitution. La Belgique bien sûr, il y a encore beaucoup de choses au musée Tervuren. D'ailleurs on parle d'œuvres d'art, mais aussi par exemple là en ce moment il y a un sujet, c'est les cartes géologiques. Qui sont donc je rappelle pour les internautes un peu d'histoire, c'est que le Congo était une colonie belge, enfin une propriété d'abord du roi belge, puis une colonie belge, et donc il y a eu des géologues qui ont fait des cartes du sous-sol congolais qui est très riche en minerais, etc. Et ces cartes sont conservées au musée Tervuren à Bruxelles en fait, et le Congo n'a pas accès à ces cartes en fait.
Et alors qu'on devrait avoir droit à ça, même s'ils nous demandent de payer quelque chose, mais on respecte le travail qui a été fait, mais notre travail de collectif restitution est aussi un travail de réappropriation, parce que c'est notre histoire, c'est notre terre, c'est nos richesses. Oui, on est conscient que l'on ne vit pas en vase clos, mais on a droit à cette réappropriation de notre histoire, à cette réappropriation de notre destin. C'est très important et c'est même le sens de notre collectif, c'est de nous réapproprier de notre histoire et de nous réapproprier de notre destin.
Est-ce que ça avance sur ce sujet justement, sur les cartes? Est-ce que vous êtes au courant si les négociations, s'il y a des négociations?
Les négociations avancent grâce aux accords de Washington. Je crois que les États-Unis s'impliquent suffisamment pour
Donc quand vous parlez des accords de Washington...
Les accords de Washington, c'est des accords qui viennent d'être signés l'année passée entre
le Rwanda
et la République démocratique.
Pour mettre fin à la guerre dans l'Est.
Pour mettre fin à 30 ans de massacres et de tueries des Congolais. C'est une crise qui a fait plus de 6 millions de morts, qui continuent à faire aujourd'hui plus d'une dizaine de millions de déplacés internes. Et ces accords ont eu le mérite de pouvoir mettre sur la table la RDC, qui est le pays agressé, et le Rwanda, qui est l'un des principaux agresseurs de la RDC, et les États-Unis comme médiateurs, et établir une chaîne de valeur dans la vente et la distribution des minerais critiques et des chaînes de valeur provenant de la RDC. Parce que l'une des principales raisons de la guerre en RDC, au-delà des aspects sécuritaires évoqués par le Rwanda, c'est des aspects de pillage des ressources économiques. Et donc, il faut que cela soit encadré. Et les cartes géologiques de la RDC, qui se trouvent à Tervuren, sont importantes parce que ça peut nous permettre de connaître réellement ce qu'il y a sur le sol et le sous-sol congolais et à établir des vraies chaînes de valeur et sécuriser tout cela pour le bien et des Congolais et de la planète tout entière.
On voit en fait que l'histoire coloniale se répercute dans l'actualité aujourd'hui, à travers ces cartes. C'est quand même quelque chose d'absolument incroyable d'imaginer qu'un pays ne peut pas avoir accès aux cartes géologiques de son propre sous-sol.
Voilà, c'est assez grave comme fait, mais je crois que dans la diplomatie qui est menée en République démocratique du Congo et grâce aux travaux des organisations non gouvernementales que nous sommes et des ONG, on arrivera à avoir gain de cause.
Merci beaucoup, Jean-Jacques Lumumba. On arrive au terme de cette émission. J'espère que ça s'est bien. De quoi avons-nous parlé pendant une heure presque?
Voilà, je suis content d'avoir participé à cette émission, à ce live, et je dis merci aux internautes qui nous ont suivis. Et surtout, merci à ceux qui nous suivront. Je pense que je serai moi-même disposé et disponible à répondre à vos questions parce que je sais qu'il y a énormément d'interrogations qui vont arriver, que ce soit sur mon compte Instagram, quand les shorts seront diffusés, je serai moi-même ramené et disponible à vous répondre et à continuer les échanges parce que, comme on le dit si bien, c'est du choc des idées que j'ai eu la lumière. Donc je suis disposé à des échanges échange, à parler avec vous. Et je suis très content et merci pour l'invitation. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis et l'intérêt que vous avez démontré pendant ce live et que vous démontrerez après en suivant cette belle émission.
Eh ben merci, et tous les internautes vous remercient d'être venus dans le studio de Au Poste. Merci encore Au Poste de nous accueillir une fois par mois pour cette émission Horizon 21 d'Afrique 21 et d'Orient 21. N'hésitez pas à aller sur nos sites respectifs, hein, chercher, fouiller si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus. On a parlé de beaucoup de choses, des rébellions dans l'Est du Congo, on a beaucoup d'articles dessus, des intérêts miniers dans l'Est du Congo, on a écrit également sur cette histoire de cartes détenues à Tervuren, sur les restitutions, bref, vous trouverez plein de ressources sur nos sites. N'hésitez pas à soutenir la presse indépendante. N'hésitez pas à faire des dons à la presse indépendante si vous trouvez que notre travail est essentiel. Nous, on y croit. On pense que notre travail est essentiel. Et face à des géants comme Vincent Bolloré, pour le reciter, qui font une véritable offensive sur les médias, je pense qu'il faut qu'on se serre les coudes. Donc, merci à toutes et à tous. Merci David. Merci Au Poste. Merci Théophile qui était aux manettes aujourd'hui. Merci Jean-Jacques Lumumba.
Merci.
À très bientôt, salut.
Mes amis, nous sommes sur auposte.fr. Abonnez-vous, les amis, c'est David Dufresne. Abonnez-vous, c'est important. Bon, la technique, c'est pas toujours ça, c'est artisanal, on est entre nous, c'est auposte, auposte.fr.
Attention, oui. Ça va être dans le clip.
Postez-vous l'abonnement, non, abonnez-vous à Au Poste.
J'encourage, faites un don à Au Poste. Ah non, c'est là la caméra.
Abonnez-vous au poste.
Et faites des dons à Au Poste. J'espère que tout le monde dans le chat, que tout le monde ici fait des dons à Au Poste. Il faut donner
de
l'argent
dons,
pour que ça existe.
Amis du café, amis de la police, abonnez-vous au poste.fr, au poste.fr. Abonnez-vous.
On vous remercie tous pour vos dons, c'est cool.
Désarmer les récits, c'est important. Ça passe par quoi? Ça passe par muscler les médias indépendants. Voilà, soutenir Au Poste.
Abonnez-vous! Donnez plein d'argent.
Il a raison, abonnez-vous à Au Poste et à Mediapart, ou deux.
Abonnez-vous!
N'oubliez pas, on a besoin de dons et de donateurs. Merci beaucoup.
Auposte.fr, y a pas mieux.
Ah, on se moque de moi là, Bompard soutient Au Poste, mais devant la mauvaise caméra. Celle-là, elle est bonne ou pas? Faites un don à Au Poste, il ne faut pas que ça soit qui reste. Donc je disais, il faut bien que vous provoquiez du débat, il faut provoquer du sujet, pour provoquer du sujet, il faut créer de la conflictualité.
Mais comment je vais rester indépendant si Bompard, il demande aux gens de faire un don?
Oh, ouais, c'est vrai ça.
Tout ça n'existe que grâce à vous, parce qu'on est indépendant et on ne vit que grâce aux dons. Donc voilà, merci.
Et abonnez-vous.
Abonnez-vous au poste.fr, au poste.fr.
Bravo.
Abonnez-vous au poste.fr, au poste.fr.